passante.
La bande passante. Nicolas Benita, Alain Pilot.
Dernière bande de la semaine parisienne avant de vous retrouver lundi pour les Francofolies de Montréal qui ont ouvert leurs portes hier. D'ici là, nous allons nous plonger dans la période musicale de 1978 à 1985, celle du post-punk à l'occasion de la sortie de son ouvrage sur ce phénomène. Notre collaborateur Pierre Mikhaïlov, après les infos, nous proposera sa sélection des meilleurs représentants du genre. Dans cette première partie, nous saluerons le retour de Blur avec Bastien Brun et un clin d'œil à Léo Ferré par le biais du festival Ta Parole, un festival fait à la main qui se déroule samedi et dimanche aux portes de Paris. Reportage signé les 10 Mouches Amalirois. Soyez les bienvenus dans votre maison et sa musique cadavérique à tous les étages.
Bitumba, Koboma, Liwae, Mawa, Bandeko, Totika, Koboma. Makilana maboko sebandeko na biso bona nini toko undaka bandeko e buka tozo boma sekomboka na biso
Le fameux cadavéré de Zao, repris par le québéco-congolais Pierre Quenders. Zao n'est pas son seul inspirateur. Taboulé Rochereau, Franco, Papa Wemba ou Koffi Olomidé sont également des références pour Pierre Quenders. De son vrai nom, José Louis Modabi, 30 ans, le dernier empereur bantou, pas lui, mais intitulé de son album, enregistré entre Montréal, la Nouvelle-Écosse et Washington DC, et son savant mélange d'étonnant d'électro, de musique traditionnelle, de hip-hop, jazz et rumba, le tout sur du français, de l'anglais, du lingala et du chiluba, qu'il présente au public montréalais à 23h59 précise, donc dans la nuit de ce vendredi à samedi. Autre artiste local de l'étape.
Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma, fillette, allons, regarde-moi, et vois les rides qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit, toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends, si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Allons bon, voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire, je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment, de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. C'est un autre que moi demain qui t'emmènera à Saint-Germain prendre le premier café crème. Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins pour que je te dise je t'aime.
Il suffirait de presque rien par la Québécoise Isabelle Boulay qui se produira au Théâtre Maisonneuve à 20h, hors local ce soir, dans le cadre des Franco-Montréalaises pour la suite de son spectacle Merci Reggiani, dont le disque est devenu disque d'or en moins d'un an, soit 40 000 copies pour le Québec. Le nouveau concert de l'une des coachs de l'émission La Voix se fera en toute intimité, cette fois avec un pianiste et un multi-instrumentiste, pour célébrer d'une autre manière Reggiani, ce maître pour elle avec qui elle a eu le bonheur de partager une scène. La bande vous fait vivre cette édition 2015 des Francofolies du Québec dès lundi.
La bande passante. Alain Pilot.
Ta parole, ma parole, ça fera guincher ce week-end dans le 21e arrondissement parisien qu'est Montreuil. Le festival Ta Parole fait un clin d'œil à Léo Ferré qui chantait donc Ta Parole dans les années 60 et invite les nouveaux artisans de la chanson française à donner la leur. La Canaille, Radio Elvis, Loïc L'Antoine, Debout sur le Zinc, Garance ou encore Agnès Bill offrent émotion et couleur à l'affiche d'un festival associatif à taille humaine pendant que l'équipe du festival monte scène, éclairage et buvette à la parole errante. Sa directrice Roxane Joseph dit tout à Lydie Mouchamaliroy sur ce petit monde d'idées et de chansons qu'il fabrique au marteau.
Alors, pour nous, le festival, c'est un petit monde qu'on crée de nos mains, puisque on le met à notre patte, le lieu, on le met à notre idée. Ça a un sens aussi de création, mais artisanale, c'est-à-dire que c'est un énorme entrepôt qui n'est pas totalement équipé. Et en fait, il est toujours agencé différemment en fonction des événements qui ont lieu ici. C'est totalement vide, donc on a une scène, du matériel lumière, du matériel son, et on fait tous les concerts en intérieur, dans l'entrepôt, et il y a un grand jardin où on aménage une buvette, un restaurant, notre cuisine mobile, parce que toute la cuisine est fabriquée sur place, ça, donc c'est toute une organisation.
On est un peu au milieu de la scène. C'est ce qu'on a fait l'année dernière, c'est qu'on est sous la scène.
On aime bien dire que pendant 4 jours, 5 jours que dure le festival, c'est un peu un petit monde idéal qu'on a reconstruit tous ensemble et qu'on essaye de partager en fait avec le plus grand nombre. Parce que c'est vrai que y a pas mal d'éléments, on va dire, d'actualité qui sont pas forcément très réjouissants en ce moment. Et c'est peut-être difficile au quotidien d'être toujours porté par un idéal, on va dire. Et on essaye au moins, pendant ces jours-là, où on est ici, où on fait ce festival, où on est tous ensemble, de partager des valeurs de partage, de fraternité aussi. Puis aussi, une notion qui nous tient à cœur, c'est la curiosité. On mise sur cette curiosité du public, parce qu'on sait que les gens, le public, a aussi ça en lui. Et c'est ce qu'on propose durant le festival, d'être surpris, peut-être de tomber amoureux d'un univers, d'un artiste. Et finalement, c'est une très belle chose. Et je pense que tout le monde a envie de découvrir des choses qui vont le faire sortir un peu de lui-même, le faire rêver, et puis pourquoi pas réfléchir et après s'engager peut-être.
1, 2, 3, 4.
Ah ouais, alors ça c'est un de notre modèle. Hein. Tout ça, c'est bien de les garder parce qu'on va en avoir besoin. Voilà, ceux-là peut-être. Bah écoute, faut que tu essayes.
Ça. Et est-ce que après tu lances un accrochage ou pas?
Traditionnellement, la chanson a une ADN ou une racine contestataire, puisque il y a énormément de chansons engagées, donc des chansons sociales qui dressent le tableau de la société, des injustices de tout temps, ça a existé. Et c'est vrai que nous, on se revendique de cette tradition-là, même si il s'agit pas non plus de présenter des artistes qui seraient dans un propos uniquement politique. Mais on sait qu'avec les mots, avec la poésie, on peut dire énormément de choses. Parfois, un artiste va pas forcément avoir un propos particulièrement politique, mais il va avoir une démarche, une façon de construire sa carrière, de se comporter aussi dans la vie, qui va être une forme d'engagement. Et c'est important pour nous de garder ce contact, entre ce lien en fait, entre l'ancrage politique dans ce qu'on est au quotidien et dans ce qu'on transmet ensuite artistiquement.
Quand je sais plus où faut qu'on s'engage, que je tremble autant que j'orage. Quand je recompte mes défauts et les jours où je siffle faux. Quand je me sens sûr, sale et seul, avec la gueule de travieux. Y'a toujours ma copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit dans un sourire.
Comme on est un festival de découverte aussi, avec beaucoup d'artistes qui sont pas connus ou en début de carrière, donc il y a un accompagnement et il y a une fidélité évidemment de la part du festival, mais la fidélité est de l'autre côté aussi, c'est-à-dire que maintenant toutes ces personnes dont on était, c'est pas qu'on était à l'origine de la carrière, mais on était là au début de leur carrière, ils sont assez reconnaissants aussi de cet accompagnement qu'on a pu leur proposer, enfin de cette mise en lumière qu'on leur a donnée à ce moment-là, et qui fait que voilà. Donc il y a effectivement Loïc L'Antoine, c'est un très bel exemple, parce que le premier festival, on l'a programmé, il disait encore ses poèmes, il n'y avait pas encore de musique, c'était vraiment un poète qui, quand je l'ai rencontré la première fois, il disait ses poèmes au comptoir, quoi, en fait, hein. Et donc petit à petit, il a structuré son univers avec de la musique. Maintenant qu'il est devenu plus connu et il accepte de revenir au festival, mais c'est un respect mutuel et une reconnaissance aussi chacun du travail qui est fait d'un côté et de l'autre, quoi.
Le festival Ta Parole vous donne donc rendez-vous à la Parole Errante de Montreuil tout le week-end avec Loïc L'Antoine, dont vous venez d'entendre le titre Pierrot, Johnny Montreuil, Les yeux de la tête et bien d'autres, que vous pouvez aussi découvrir sur le site festivaltaparole.org. Bonsoir Bastien Brun.
Bonsoir Alain.
Blur sera lundi au Zénith de Paris pour un concert qui affiche complet. Le groupe anglais qui s'est déjà reformé sur scène depuis 2009 avec le retour du guitariste Graham Coxon qui avait quitté la formation a publié The Magic Whip, son premier disque en studio depuis 12 ans. À cette occasion, Bastien, tu nous dis ce qu'il faut retenir de ce fouet magique.
Mais avant cela, petit retour en arrière.
Spells in the country.
Girls and Boys, Country House et Song 2 dans la bande passante sur RFI. Depuis son jardin anglais, Blur a été l'un des plus emblématiques représentants de la Britpop, le renouveau de la pop anglaise des années 90. Alors que son grand rival Oasis, venu de la prolétaire Manchester, collectionnait les tubes, Blur imposait une musique plus raffinée, censée à l'époque en remontrer aux Américains.
Voilà pour le contexte, Bastien, mais depuis l'opposition Blur-Oasis a fait long feu, les frères Gallagher qui pourraient bien reformer Oasis n'affolent plus personne, et après une longue éclipse due au brouille entre le chanteur Damon Albarn et le guitariste Graham Coxon, on retrouve Blur dans la force de sa quarantaine avec un 8e album.
Désormais retrouvé autour de ses 4 membres, le chanteur Damon Albarn, le guitariste Graham Coxon, le bassiste Alex James et le batteur Dave Runtree, Blur s'est mis, si l'on peut dire, un petit coup de fouet aux fesses pour que cet album voie le jour. Et l'histoire de Magic Whip, telle que le groupe l'a racontée, elle arrive après ce très coquin Marchand de glace. Ice Cream Man, Blur, c'est donc à la suite d'un concert annulé à Tokyo lors de sa tournée en Asie en 2013 que Blur a profité d'un temps mort de 5 jours à Hong Kong pour graver les bases de ce nouvel album. Ces musiques, enregistrées à partir d'idées de Damon Albarn, ont été ensuite retravaillées et mises en forme par Graham Coxon avec le producteur Stephen Street, déjà derrière la console des plus grands succès du groupe. En un coup de baguette magique, le tour était donc joué. Blur pouvait donc donner à la presse musicale anglaise l'album qu'elle attendait.
Et le contenu de ce Magic Whip, alors, est-il la déception ou l'album inespéré que certains ont décrié, Bastien ?
Ni l'un ni l'autre, Alain. C'est un bon disque de Blur, un peu à l'image de My Terracotta Heart, une ballade lunaire, comme le groupe sait en faire et comme je les aime. And the bright rays we got in summertime seem like a breath of fresh air back in the summertime when we were more like brothers. That was years ago. So if it doesn't seem like a alambiqué et bizarre comme l'était
13.
Ce Magic Whip va parfois sur des terrains inconfortables. Sur un air de fin du monde, la très sombre
Pyongyang.
Et pour moi, un véritable moment de bravoure. À écouter de bout en bout et de préférence un jour où tout va bien dans votre vie. Mais ce qu'on retient surtout de ce disque qui se découvre au fil des écoutes, c'est son côté définitivement anglais. Ceux qui suivent le chanteur Damon Albarn, notamment dans ses explorations africaines avec le batteur Tony Allen, passé lui aussi par la bande, ne seront pas déçus. Ce nouveau Blur confirme la grande classe de ce groupe et de Mr. Albarn.
ONG, ONG, Blur, thank you Bastien pour cette chronique.
You're welcome Alain, à très bientôt.
À suivre l'après-clash et Sex Pistols, le post-punk décrypté par Pierre Mikhaïlov, juste le temps de faire le tour du monde de l'actualité en 3 minutes sur RFI. A tout de suite dans la bande passante.
Musique.
Retour de la bande passante sur RFI en compagnie de cet ex désaxé, guitariste de Jacques Nour, reconverti en biographe, critique, écrivain, documentariste, collaborateur de la bande, mais toujours musicien sans épingle à nourrice, ni pantalon zippé. Bonsoir Pierre Mikhaïlov.
Bonsoir Alain Pinault.
Post-punk 1978-85, c'est le titre de l'ouvrage que tu publies, un état des lieux de ce qu'il s'est passé après l'ouragan punk entre 75 et 77. Avec toi, nous allons feuilleter ce livre de 160 pages, 200 photos et documents réalisés avec le photographe phare des années 80, Pierre Terrasson. Soyez de nouveau les bienvenus dans votre maison et sa musique, pas seulement gothique, à tous les étages.
La bande passante. Alain Pilot.
Pierre, c'est ça?
C'est ça.
A Forest, The Cure, sur l'album 17 Seconds, place à la basse à l'époque. The Cure, catalogué par Pierre Mikhaïlov au rang des chauves-souris et autres créatures. C'est le chapitre 5 de Post-Punk 1978-85. Des amateurs de New Wave, nous, on disait chez moi au Pays Basque, les corbeaux. À Paris aussi.
On disait ça à Paris aussi.
Aux soirées, c'est bal à l'Opéra Night, comme tu l'écris. Hein.
Tout à fait.
Revenons juste à The Cure quelques secondes. C'est le groupe qui va détenir un record particulier?
Ah oui, alors ils ont un record particulier, c'est celui du nombre de musiciens qui sont passés entre leur rang. Je crois qu'il y a une trentaine de musiciens.
Pourquoi? Parce qu'ils aiment la variété. Bah,
je crois que malgré lui, Robert Smith aime la variété, c'est-à-dire qu'il a un caractère un petit peu difficile, ce qui fait que les gens ne restent pas toujours très longtemps à ses côtés.
Allez, plongeons-nous dans les 7 autres chapitres. Avant toute chose, puisqu'on parle du post-punk, définition du terme punk, Pierre Mikhaïlov.
Alors, définition du terme punk, au départ, c'est un mot qui est utilisé, qu'on trouve au Moyen-Âge en Angleterre. Dans l'argot, ça signifie prostituée. C'est un nom qui va être toujours associé à des gens de mauvaises mœurs. C'est le nom qu'on donnera dans les prisons aux petites frappes qui sont un peu les mignons des caïds. Donc ça a toujours été le nom d'un personnage dévalorisé. Et c'est comme ça qu'on va nommer ces musiciens qui savent pas très bien jouer, qui sont contre l'ordre établi, qui se révoltent contre les rockstars. On va les appeler punk et voilà, ils vont prendre le pire nom qu'on puisse imaginer pour se nommer.
Et pour eux, il n'y aura pas de futur. Pourquoi les médias en 78, quand cette période post-punk arrive, ne s'intéresse-t-il pas justement à cet après-punk?
Alors, les médias vont s'y intéresser petit à petit. Au départ, au moment où le post-punk commence, les médias commencent tout juste à s'intéresser au punk. Parce qu'il y a toujours un décalage entre les médias grand public et puis ce qui se passe vraiment dans les caves, dans les clubs, dans l'underground. Donc voilà, c'est en raison de ce petit décalage. Et puis très très vite, il va y avoir des groupes qui vont avoir beaucoup de succès, qui vont vendre beaucoup. Et là, on va comprendre qu'il se passe quelque chose. Alors, les groupes qui vont avoir beaucoup de succès, ça va être Human League. Aujourd'hui, on a peut-être un petit peu oublié Human League. Mais à l'époque, c'est un groupe avec deux filles. et des synthétiseurs et qui
on y reviendra dans quelques
minutes, qui ont un succès énorme. Il y a Cure va connaître un succès un peu plus tard dans la décennie en France notamment. Il va y avoir des gens comme Eurythmics aussi. Donc tout ça, c'est des noms qui sont restés dans la mémoire, et ça fait vraiment partie du post-punk. C'est des gens qui sont là, qui n'auraient pas été là s'il n'y avait pas eu le punk avant.
Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de revenir sur cette période?
Alors tout simplement, je suis quelqu'un d'assez logique, et donc j'avais fait un livre sur le punk, et donc là c'était pour moi assez logique de continuer l'aventure, de raconter la suite de l'histoire, c'est-à-dire le post-punk, ce qui se passe de 78 à 85.
Le punk est devenu caricatural sur la fin?
Alors oui, parce que le punk est devenu une mode. On pouvait acheter des épingles à nourrice dans les supermarchés, se déguiser en punk, et les babacools se coupaient les cheveux et se donnaient l'apparence d'un punk. Donc finalement, ça voulait plus rien dire. C'était juste un petit effet de mode comme ça. Et les vrais punks, les fondateurs du mouvement en 78, voulaient plus être assimilés à ça, à ces faux punks, et donc faisaient autre chose. Et cette autre chose, c'était le post-punk.
Des ex-punks poursuivre. Pile, qui veut dire Public Image Limited, et le titre du morceau, c'est Public Image, son premier simple. J'avoue avoir eu un petit faible, moi, à l'époque, pour This Is Not a Love Song. Ça arrive un peu plus tard.
Oui, ça arrive un petit peu plus tard, ouais.
Alors, ça n'était pas vraiment l'amour, justement, entre eux. Et qui se cache derrière Public Image Limited?
Donc c'est John Lydon, le chanteur des Sex Pistols, qui s'appelait autrefois Johnny Rotten, qui reprend donc son vrai patronyme.
Johnny Rotten.
Et qui, pour la première fois de sa vie, va vraiment monter le groupe dont il rêve, parce que les Sex Pistols, c'est un peu une histoire dans laquelle il s'est trouvé plongé.
C'était un boys band.
C'était presque un boys band. Et là, c'est vraiment lui le patron, c'est vraiment lui qui décide de tout. Donc c'est tous ces concepts à la fois commerciaux et musicaux, parce que il conçoit Public Image comme une entreprise. Dans les interviews, quand on lui demande qu'est-ce que c'est que ce groupe, il dit c'est pas un groupe, c'est une entreprise. Nous sommes une entreprise, Public Image Limited, et nous produisons de la musique, nous produisons des albums, des concerts. Donc c'est tout un concept comme ça qui se veut un petit peu un pied de nez au libéralisme et puis à tout ce qui se passe à l'époque en Angleterre. Et il prend vraiment le contre-pied justement de tout ce qu'ont été les punks, on casse la société, on casse le système. Lui, c'est non, on fait une entreprise tout simplement.
Enfin, l'entreprise, à un moment, c'est autodestruction. Parce qu'il dit n'achetez pas ce disque.
Oui. Alors voilà, il a des concepts promotionnels un peu particuliers. Quand il sort un album live, dans les interviews, il dit surtout ne l'achetez pas, c'est pourri. Il y a des façons plus efficaces de donner envie d'acheter son disque, c'est vrai.
Et puis ils s'en vont à un moment en plein concert.
Alors si quelque chose le dérange aussi pendant un concert, si le son va pas, le son des retours voix n'est pas terrible, il s'en va.
Normal.
Il ne revient pas et, sans prévenir les autres. Donc c'est vrai que parfois ça agace un peu le public qui a payé sa place, ce genre de comportement.
Achetez ce livre, c'est Post-Punk 1978-85 de Pierre Mikhaïlov. À te lire, Pierre, on se dit que ce mouvement musical qui en a bercé plus d'un de notre génération, il est plus ou moins fasciné par le Troisième Reich. Quel rapport?
Alors ouais, il y a certaines personnes qui utilisent des sortes de symboles, de références comme ça, un peu douteuses. Déjà, il y a le groupe Joy Division, la division de la joie, c'est une... C'est une division qui est recrutée parmi les prisonnières de camps de concentration pour assouvir les besoins sexuels des gardiens SS. Donc c'est vrai que nommer un groupe Joy Division, c'est voilà, ça fait référence à des choses un peu bizarres. Il y a aussi Suxi, la chanteuse de Suxi and the Banshees, qui aime bien se promener avec des croix gammées, qui déclare dans les interviews que l'uniforme allemand de la Seconde Guerre mondiale est un good looking uniforme, donc des choses comme ça un peu bizarres.
Justement, on la retrouve maintenant, Suxi et the Banshees. La bande post-punkante Monitor, Suxi and the Banshees en 80. Il y a un peu de funk là-dedans, Pierre.
Oui, voilà. Alors, petit à petit, il y a le funk qui va s'inviter dans cette génération de musiciens. C'est des gens qui viennent du rock, donc de choses très très basiques. Et la génération post-punk, c'est une génération qui redécouvre les clubs, la musique de club, la disco, et qui a plus honte de, comme la génération précédente, d'écouter du funk, de la disco, et de mélanger ça à sa musique. Et ça, on entend effectivement dans ce morceau de Suxi cette influence-là.
Je le disais dans l'entrée, les photos de cet ouvrage sont du célèbre Pierre Terrasson. Vu l'âge des artistes, nous n'avons pas souvent affaire à des poseurs à l'époque. Les trois quarts sont naturels. C'est aussi l'état d'esprit à ce moment-là, une certaine insouciance.
Oui, alors une certaine insouciance, mais en revanche, quand on voit les savantes coupes de cheveux, décoloration de d'Annie Lennox,
il y a
du travail. Là, c'est pas toujours spontané. Mais je dirais, moi, je sens une génération quand même qui travaille beaucoup son image, qui est très soucieuse de son image. C'est une génération très lookée. Quand on regarde les photos du livre, on s'aperçoit que chaque artiste a à la fois son univers musical et visuel.
Si l'on faisait de la musique dans la période punk, comme les Sex Pistols, il n'était pas de bon ton d'avoir une bibliothèque chez soi. Eux, à l'époque, lisent des livres. Ouh. I love it like I do. 1978, reprise d'Al Green, Take Me to the River, les têtes parlantes. C'est plutôt les radios espagnoles qui faisaient ça d'ailleurs à l'époque, qui traduisaient le nom des groupes. The Talking Heads, ce que tu appelles, Pierre Mikhaïlov, du rock calviniste, traduction.
Voilà, bah c'est un peu des blancs qui ont fait des études supérieures, qui sont plus ou moins ingénieurs, qui sont passés par le MIT, donc des gens plutôt calés et qui ont cette raideur quand ils jouent là, le morceau qu'on entend, quand ils jouent du funk ou de la soul, ils ont cette raideur comme ça de jeunes gens trop bien élevés, trop propres, et en même temps je trouve que ça fonctionne très très bien. Et par rapport à toute cette scène musicale, c'est des gens qui étonnaient beaucoup les Ramones, parce qu'en tournée ils lisaient des livres, et les Ramones comprenaient pas qu'on puisse jouer du rock et lire un livre.
Ça a aussi étonné je crois les musiciens de Taxi Girl de les voir un jour sur scène en France, où ils ont l'impression que ce sont des chanteurs anciens.
Ah oui, ils étaient pas très drôles. C'est vrai que Taxi Girl a eu l'occasion de faire leur première partie au Palace à Paris, et c'était pas drôle du tout. Et en coulisses, c'était des petits fonctionnaires qui s'apprêtent à faire leur travail.
Nous n'illustrerons pas tous les chapitres de cet ouvrage, comme le troisième, Jeunes gens modernes mais tourmentés, représenté par Killing Joke, Virgin Prunes, Lords of the New Church, Oberkampf, tiens, des Français, et de Stranglers, des concerts mouvementés. C'est pourtant moins violent que le punk à l'époque, non?
Alors, pas toujours, parce que les Stranglers, notamment, avaient pour habitude, aimaient bien provoquer leur public et proposaient à leur public de casser un peu le mobilier des salles dans lesquelles ils se produisaient. Donc des fois, ça se passait assez mal, ça finissait en émeute, les Stranglers passaient la nuit au poste. Notamment à Nice, il y a une anecdote que je raconte dans le livre, où ils ont failli passer plus de quelques nuits au poste de police à Nice, où la municipalité n'était pas très contente de la salle qui venait d'être ravagée.
Ces piles que l'on a écoutées tout à l'heure, Nez des cendres des Sex Pistols, eux, c'est à Joy Division qu'ils font suite.
La bande passante.
Chapitre 4, les enfants du punk squattent les charts. Mars 1983, Blue Monday, classé dans le top 10 de plusieurs pays, le top 10, traduction, New Order, ex Joy Division. Joy Division, pionnier du post-punk. Pourquoi écris-tu que s'il fallait résumer le post-punk, ce sont ces deux mots qui viendraient à l'esprit, New Order?
Voilà, parce que pour moi, New Order, ça, dans leur musique, ils réunissent un petit peu tous les éléments qui constituent cette période. Donc l'utilisation des synthés, c'est des gens qui au départ viennent du rock, viennent du punk, mais qui se mettent à découvrir les synthés, qui se mettent aussi à découvrir la dance music. C'est des gens qui passent leur nuit en boîte de nuit. Ils ont même en monté une qui s'appelle Rasé Hacienda, qui est restée célèbre. Donc pour moi, voilà, c'est ça, ils ont vraiment suivi le parcours de cette génération de musiciens. Et vraiment, voilà, c'est mélangé, c'est des blancs qui font du funk. Et comme ils le font mal, ça devient autre chose. Et ils inventent leur propre musique.
Est-ce qu'on y croisera des artistes français dans cette Hacienda?
Alors, des artistes français, oui. Des DJ célèbres vont y faire leur début, notamment le plus célèbre d'entre eux, dont le nom m'échappe, mais que vous allez me citer.
De quelles années? Laurent Garnier, par exemple?
Voilà, Laurent Garnier va faire ses débuts à l'Hacienda. Alors, l'Hacienda, il y a un film que je recommande qui s'appelle 24 Hour Party People, qui raconte toute l'histoire de l'Hacienda et de New Order et des groupes qui gravitent autour. C'est un film anglais très très bien fait.
Alors, il y a des Français quand même dans cette période de post-punk. Sûr. Voici les anciens Stinky Toys sur RFI.
de la pleine lune, elle court dans les bois, donne des coups de pied dans les ronces, arrache des poignées d'ortie et se jette toute nue dans l'eau glacée du lac.
Nuit de la pleine lune, Élie Jacquenot. Jacquenot, dont Pierre Mikhaïlov sera le guitariste lorsqu'il sera en solo. Ensemble à la scène comme à la ville, Élie Jacquenot. Pourquoi l'aventure du duo, qui est bien diffusée à la radio et à la télé, ne va pas durer?
Alors, l'aventure du duo, c'est une histoire de couple aussi. Donc, voilà, quand le couple bat de l'aile, le duo, forcément, bat de l'aile aussi. Donc, c'était cet album qui était la musique du film d'Éric Rohmer, Les Nuits de la Pleine Lune, et aussi le dernier album d'Élie Jacquenot, que je trouve magnifique d'ailleurs, qui résume bien tout leur parcours.
Donc,
c'est un peu l'apothéose.
Il faut se replonger dedans. Certains diront que cette génération post-punk sera inféodée à la fameuse chaîne de télé musicale MTV à l'époque. Tu as également ce sentiment, Pierre?
Alors oui, pour les anglo-saxons, oui, parce que ça va être les années clips. C'est vraiment une période aussi qui est très liée aux clips, où les groupes vont préférer faire des clips que des concerts. Et donc oui, ça passe par MTV, évidemment.
Eux font partie du chapitre 6, génération MTV. La génération MTV, Kim Wilde, Culture Club, Depeche Mode, Frankie Goes to Hollywood, Madonna, Eurythmics et Human League avec Don't You Want Me, Human League qui compte parmi ses spectateurs par moment Siouxsie Sioux et David Bowie. Deux mots sur Human League.
C'est un groupe qui va partir de l'expérimental, qui va mettre très longtemps à trouver la formule magique, et une fois qu'ils vont la trouver, ça va se personnifier par deux jeunes filles rencontrées en boîte de nuit qu'ils vont engager comme choristes, et ils vont avoir ce hit mondial qu'on a écouté.
Une sorte de boys band là aussi à nouveau.
En quelque sorte.
Parmi les protagonistes de ces années post-punk, deux questions en une. Qui demeure le plus emblématique et qui s'en sort bien encore aujourd'hui?
Alors, qui s'en sort bien encore aujourd'hui? Moi, je réponds John Lydon, que j'ai encore vu en concert avec Peel il y a 2 ans et qui pète le feu.
Et qui est le plus emblématique? Toujours John Lydon aussi?
Non, alors le plus emblématique, il y en a beaucoup. On pourrait dire Siouxsie peut-être. On pourrait dire Siouxsie qui a personnalifié.
Ouais. On aurait pu encore parler de beaucoup, beaucoup d'artistes, mais il suffit de se plonger dans ce livre. Merci infiniment, Pierre Mikhaïlov.
Merci à vous, Alain.
À bientôt, Post-Punk, 1978-85, par Pierre Mikhaïlov, photo Pierre Terrasson, et publié aux éditions Carpentier. Fin de cette bande, intendant de la maison Pierre Vallée. La bande repasse lundi depuis Montréal pour les Francofolies, le code du portail RFI.fr, RFI Musique. Pour les mélomanes, tout de suite, vous avez rendez-vous avec le journal. Bon congé de fin de semaine, comme l'on dit au Québec. Salut, à lundi.